Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
L'anxiété de la jeunesse allemande à la veille des élections, immigration, économie, écologie, les débats n'ont jamais été aussi polarisés. 50 ans après la fin de la dictature de Franco, l'Espagne n'assume toujours pas son passé et les centaines de fausses communes en souffrance. La parité en politique, l'Irlande est le mauvais élève de l'Europe. Voilà l'essentiel du programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour à tous. Les sondages laissent peu de doutes. Les prochaines élections ce dimanche en Allemagne devraient confirmer l'effondrement du Parti social-démocrate actuellement au pouvoir et l'arrivée sur le devant de la scène de la droite avec les chrétiens-démocrates, immédiatement suivie par l'extrême droite du parti AfD. Les débats sont clivés, qu'il s'agisse de limiter l'immigration, de la récession économique ou du futur de l'écologie dans un contexte d'inflation des prix de l'énergie. Dans ce climat, les jeunes électeurs se disent particulièrement sceptiques et angoissés face à leur avenir. C'est le reportage de Delphine Narbolier.
L'ambiance est lourde en Allemagne comme rarement ces dernières années. Dans la campagne électorale en cours, on ne parle que d'immigration, d'insécurité, de crise économique et de montée des extrêmes. Anna a 25 ans et comme des dizaines de milliers de personnes depuis des semaines, elle manifestait récemment contre la montée de l'extrême droite. Le parti alternatif pour l'Allemagne, l'AfD, est donné deuxième dans les intentions de vote.
C'est un vrai danger pour notre pays. Au moins 20% de la population supporte les nazis et c'est dangereux là, ça me fait peur.
Cette berlinoise le reconnaît aussi, elle craint pour le modèle social de son pays. L'Allemagne reste la troisième économie du monde, mais depuis la guerre en Ukraine, elle peine à sortir de l'impasse. Elle redevient ce que certains appellent l'homme malade de l'Europe. Cette jeune femme qui se dit de gauche ne voit pas d'avenir très brillant pour elle et ses proches.
Tout le monde a peur d'être pauvre, de ne pas pouvoir payer l'appartement, la nourriture, tout ça. J'espère que pour moi, je suis vieille, que je vais avoir une retraite, mais je suis pas sûre.
Anna n'est pas un cas particulier. Comme elle, 3 Allemands sur 4 disent regarder l'avenir avec angoisse. Et si les jeunes sont moins pessimistes, ils n'ont jamais eu le moral aussi bas. D'après une étude réalisée l'an dernier, la moitié des 15-29 ans pensent que la situation économique va se dégrader. À l'époque de cette enquête, ils plaçaient l'inflation, la guerre, la hausse des loyers parmi leurs premières craintes, ainsi que la peur du changement climatique. Félix Mühlmann a 24 ans, nous le rencontrons dans un meeting électoral du Parti social-démocrate, celui du chancelier Olaf Scholz. Cet étudiant en droit n'est pas vraiment convaincu. Où est passé le thème du climat? Il s'interroge.
J'ai vraiment le sentiment que ce thème ne trouve pas sa place dans la campagne, car il est relayé très loin derrière ce que la droite et l'extrême droite mettent en avant, comme l'immigration. Or, si l'on ne fait rien contre le changement climatique, il y aura toujours plus de réfugiés. Moi, j'ai peur qu'à l'avenir, on lutte pour l'eau, pour les zones encore habitables. Et alors là, les conflits commenceront vraiment.
Économie, immigration, ces doutes et angoisses sont particulièrement frappantes auprès des jeunes qui se disent proches de l'extrême droite. Dans un meeting électoral de l'AfD, nous rencontrons David R. Cet étudiant en informatique à 22 ans, il est engagé auprès de ce parti depuis des années déjà. Il n'a pas peur pour son avenir professionnel, mais il regrette l'Allemagne de ses parents.
Ça va de pire en pire. Les gens le disent, ils veulent l'Allemagne d'avant. Et les jeunes sont les plus touchés. Qui a le plus souffert du corona? Les jeunes. Avant, on allait à l'école, tout allait bien. Et maintenant, il y a de la moisissure sur tous les murs des écoles. Les enseignants ne sont plus formés comme avant. En plus, tout devient plus cher. Et d'un autre côté, la culture familiale faiblit et il arrive toujours plus d'étrangers. La question migratoire par-dessus, tout cela pèse énormément sur les jeunes.
Comme David, de plus en plus de jeunes se laissent attirer par ce parti d'extrême droite. Lors des élections européennes de juin dernier, l'AfD est arrivée en tête des votes chez les 18-24 ans. Une première qui pourrait se renouveler lors de ces législatives, notamment grâce à la forte présence de l'AfD sur les médias sociaux. Ce parti est le premier à avoir visé les jeunes sur TikTok, par exemple. Pour nous parler de ses peurs, nous joignons Rüdiger Maas. Il dirige un institut de recherche intergénérationnel à Augsbourg, en Bavière. Pour lui, les jeunes sont confrontés à un monde en plein bouleversement entre la guerre en Ukraine, le défi économique, mais aussi les transformations liées au numérique et à l'intelligence artificielle.
Pendant longtemps, tout allait bien pour l'Allemagne. La sécurité a toujours été assurée. Mais aujourd'hui, avec la numérisation, l'intelligence artificielle, la peur que l'on ressent actuellement dans le pays augmente et elle est très handicapante. Elle explique en partie la montée des extrêmes en Allemagne. Et on remarque aussi que les jeunes sont très vulnérables, ils sont très anxieux par rapport à ces thèmes. C'est contraire aux idées reçues. Les jeunes prennent habituellement des risques. Or, là, on les voit menés par leurs émotions et leurs peurs.
Dans ce contexte, l'enjeu pour les divers partis politiques sera certainement d'offrir des réponses crédibles et rassurantes à des jeunes sceptiques et en plein doute, un défi de taille.
« 2025 est placé en Espagne sous le signe des commémorations 50 ans après la fin de la dictature de Franco. Les blessures, celles de la guerre civile mais aussi de la répression franquiste qui a suivi sont encore vives, tant le pays s'est enfermé sous une chape de silence. On estime qu'il y a aujourd'hui en Espagne 600 à 800 fosses communes avec des milliers de corps de républicains condamnés par une justice expéditive franquiste. Les familles cherchent à exhumer ces corps avec difficulté, des cadavres qui sont encore dans l'abîme de l'oubli. C'est le titre de l'album signé Paco Roca et Rodrigo Terraza qui paraît aux éditions Delcourt. On retrouve en ligne depuis Madrid le scénariste Rodrigo Terraza. On le comprend bien dans votre livre, vous dites « La démocratie espagnole s'est construite sur l'oubli ».
En Espagne, on dit qu'après les années de terreur, il y a eu 40 ans de silence. Avec cette BD, on voulait réfléchir au rôle de la société dans cette question de la mémoire, dans ce qui s'est passé pendant la guerre, et surtout dans l'après-guerre où se situe notre histoire, et voir comment a été possible cette énorme anomalie démocratique. Le fait que 50 ans après la mort de Franco, il reste des milliers de fosses communes à exhumer, des milliers de disparus à localiser et des milliers de cas d'injustice à résoudre.
On suit au travers de votre livre la destinée de plusieurs personnages, Pepica Celda, la fille de José Celda, fusillé républicain. On peut dire que les procès étaient expéditifs, sans motivation, parfois pour de simples jalousies entre voisins.
Oui, ce qui se joue principalement pendant la dictature et l'après-guerre, c'est la mise en place d'un régime de terreur, basé sur la vengeance et l'arbitraire. Il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont été arrêtés et fusillés pendant la dictature, qui n'étaient pas les personnes recherchées. S'ils cherchaient le père et qu'il n'était pas là, eh bien ils arrêtaient le fils. Il fallait montrer qui avait gagné la guerre et quelles étaient les conséquences si on s'opposait à la dictature. Bien sûr, beaucoup, côté républicain, avaient commis des crimes, et on en parle dans la BD. On sortait d'une guerre civile. Mais il aurait fallu rendre justice au lieu d'établir un régime de vengeance et de terreur qui, d'après moi, explique très largement l'oubli qui a suivi. Et encore maintenant, des descendants de victimes à qui on a parlé disent qu'aujourd'hui, ils ont toujours peur de parler de ça. C'est une grande source de tension entre ce qu'on appelle les deux Espagnes. Et ça vient de ce régime sauvage, de terreur. Souvent, les familles réclament non seulement les os de leurs parents, mais aussi qu'on annule les condamnations qu'ils ont reçues. Et bien sûr, j'insiste, il y a sûrement eu aussi beaucoup de gens qui ont commis des atrocités côté républicain, mais ça n'enlève rien au fait que les procès étaient faussés, que la justice n'a jamais été appliquée après la guerre et pendant la dictature franquiste.
Il y a eu une loi en 2007 sur la mémoire historique qui donnait l'autorisation d'exhumer les corps, mais on voit bien au travers de votre album que pour les particuliers, ça reste extrêmement difficile.
Pepica Celda obtient quasiment la dernière subvention du gouvernement socialiste de José Luis Zapatero et elle l'obtient grâce à cette loi juste avant les élections. Or, la droite menée par Mariano Rajoy avait promis pendant la campagne de ne plus consacrer un seul euro aux exhumations. Donc pour elle, c'est une course contre la montre. car si elle ne réussit pas à lancer le projet et à récupérer les ossements de son père, après ce sera trop tard quand le gouvernement aura changé. Ce qui est en soi une anomalie démocratique. Je pense qu'il a manqué un engagement de l'État au-delà des postures de droite et de gauche. Mais c'est quand même absurde que dans une puissance européenne, on en soit encore là.
Comment a été reçu votre album ? Est-ce que vous avez l'impression que la parole est un peu en train de se libérer ?
La quasi-totalité des gens qui sont venus vers nous étaient très émus. On n'a presque pas eu de critiques. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est de voir beaucoup de gens expliquer qu'ils étaient contre les lois sur la mémoire historique, contre le gouvernement Sanchez, mais pour Pepica. Pour moi, la plus grande réussite de la BD, c'est le fait que les gens comprennent que la mémoire historique a droit à ses recherches et mérite autre chose que des altercations à l'Assemblée.
Merci beaucoup Rodrigo Terrassa, scénariste de L'Abîme de l'Oubli, co-réalisé avec Paco Roca et édité chez Delcourt.
Muchísimas gracias, merci beaucoup.
Et merci à Guilhem Deltaï pour la voix en français et Juliette Garbrand pour la traduction. C'est un des plus mauvais élèves en Europe en termes de parité politique. L'Irlande n'a que 25% de femmes au Parlement contre 37% en moyenne sur le continent. Une faiblesse qui se traduit aussi au gouvernement et ce, malgré les quotas. À Dublin, Clémence Pénard a cherché à comprendre pourquoi.
And I'm here in front of many of the members, children and young people, and indeed my own children who are up in the gallery.
Jane Cummins est l'une des 44 femmes seulement à avoir été élue au Parlement en Irlande lors des dernières élections. On la retrouve à l'hôtel, juste en face du Dáil, le nom pour désigner la chambre basse ici du Parlement. Pour la social-démocrate, le manque de parité au sein même du nouveau gouvernement est alarmant. Sur les 15 ministres tout juste nommés, seuls 3 sont des femmes. Un véritable boys club, d'après Jane Cummins.
Je trouve ça choquant. Enfin, ce n'est pas surprenant. Je pense qu'ils avaient la possibilité de faire mieux, mais ils n'ont pas saisi l'occasion. Je suis très, très déçue. Déçue par eux, mais surtout déçue pour le pays. Nous sommes représentés par des James et encore d'autres James, et puis ces 3 femmes. Franchement, on est en 2025, ce n'est pas compliqué.
Les deux partis historiques irlandais, le Fine Gael et le Fianna Fáil, qui se partagent le pouvoir en Irlande, ont donc manifestement échoué à saisir l'enjeu de l'égalité des genres. Pourtant, dès 1990, l'Irlande élisait sa première femme présidente, Mary Robinson, mais alors que des pays comme la Belgique adoptent en 1994 une législation visant à accroître la participation politique des femmes, il aura fallu près de 2 décennies à l'Irlande pour introduire des quotas de genre. Lise Keenan, professeure en sciences politiques à l'université Trinity.
L'Irlande est actuellement en queue de peloton en Europe occidentale. Mais on progresse tout de même si l'on compare à la situation avant l'introduction des quotas de parité en 2016, où la proportion des femmes était inférieure à 16%. Il s'agit d'une amélioration notable.
En Irlande, chaque parti doit désormais présenter au moins 40% de femmes, tout comme 40% d'hommes aux élections nationales. Sinon, il perd la moitié de ses financements publics, une incitation de taille. Et pourtant, malgré cette règle, la représentation féminine au Parlement fraîchement élu reste bien médiocre.
Cette fois-ci, nous avons eu plus de femmes candidates que jamais auparavant. Les femmes veulent se présenter et elles se présentent. Mais elles auraient pu gagner beaucoup plus de sièges. Certaines femmes sont en fait des agneaux sacrificiels. On les présente, mais c'est seulement pour atteindre les quotas. Elles ne sont pas réellement soutenues par leur parti pour, à la fin, occuper un siège.
Des quotas, c'est bien, du soutien concret, c'est mieux, comme le souligne Mairead Oshie de l'association Seer Elected, qu'elle soit élue en français, et cela implique des financements réels et un soutien tangible de la part des partis à leurs candidates féminines. Pour Mairead, le problème est d'autant plus criant en milieu rural.
Je pense que l'un des plus grands problèmes dans l'Irlande rurale, c'est la loyauté envers les élus en place. Depuis des décennies, nous voyons sans cesse les conseillers sortants être réélus. C'est très difficile de briser ce mur.
Pour Liliana Fernandez du National Women's Council à Dublin, il est également crucial d'inciter les femmes à se présenter en politique. Et pour ce faire, il faudrait changer certaines structures en place.
Le salaire d'un conseiller local est très faible. Je pense que c'est encore plus décourageant pour une femme, parce que vous aurez votre travail à plein temps, ensuite vous aurez ce travail, à temps partiel, de conseiller local. Et enfin, vos responsabilités en tant que parent, ou si vous prenez soin de quelqu'un d'autre. Donc les femmes ont tendance à avoir un triple emploi du temps. Augmenter le salaire pourrait donc donner la possibilité aux femmes de quitter leur emploi à temps plein pour se consacrer entièrement à cette fonction. Si l'on regarde les conseillers locaux actuels, la plupart sont des hommes, retraités, aisés. Pour eux, évidemment, le salaire n'a pas vraiment d'importance puisqu'ils ont déjà une pension.
En Irlande, certains partis seraient tout de même meilleurs que d'autres en matière d'inclusion. Brian Sheehan, directeur d'une autre ONG, Women for Election.
Sinn Féin. Le parti indépendantiste Sinn Féin, l'un des trois plus grands partis, adopte une approche assez stricte avec 50% de femmes à tous les niveaux. Ils sont également très efficaces pour repérer les femmes à travers le pays, qui sont ensuite en première ligne dans les communautés, et pour les encourager à se présenter aux élections.
Concernant le nouveau gouvernement irlandais, pour reprendre les mots de la députée Jane Cummins, le cabinet compte aujourd'hui autant de ministres prénommés James que de femmes, un affront à l'égalité des sexes. Avec 3 femmes sur 15 ministres, en Irlande, on est encore loin de la parité dans les cercles décisionnaires.
Et pour notre chronique musique, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Angleterre sur les terres de la pop.
Voilà pile 20 ans, le groupe anglais Tongue publiait son premier album et sans avoir l'air d'y toucher, posait un jalon important dans l'histoire de la pop en inventant un genre inédit, la folktronica, comme son nom l'indique, un mélange de folk et de musique électronique, mariage doux et délicat de ritournelles, d'instruments acoustiques et de machines. À sa modeste mesure, le genre a fait école, le groupe a traversé les années sans rien perdre de son inventivité et publie aujourd'hui son 8e album, joliment intitulé « Love You All Over Again ». En 10 nouvelles chansons, les musiciens de Tongue semblent revenir sur leurs pas, prendre la mesure du chemin accompli et célébrer la simple joie d'être réunis.
Why do we do this? We find ourselves here in the fray, lost in time. Why do we play this amazing, stupid, messed up game? We drink our tea. Why do we love this? We bend our bones and wipe our shoes. We need you still. Why do we break this? We run like kids into a storm. We're not afraid. Why do we eat this? We gorge ourselves and laugh like mad. We're high on life. Why do we need this? We send our joy like tiny kites and hold on tight. Why do we play this infernal game of joy and fear? We're all still here.
Twenty unbridled things awake in the burning tree. 20 entangled wings asleep in an oak tree. Everything we don't know is sealed in a golden ring. 20 imagined worlds are sewn into everything. Why do we love this? It makes no sense to be here.
Everything Else du groupe Tongue dans Accent d'Europe. L'émission était réalisée par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et les réseaux sociaux. À demain.
we comb our hair.